Pour Marie-Pierre et pour moi, c'est un retour en Lorraine, hein, puisque nous étions, pour les plus anciens, nous étions ici à l'église de Villers il y a 20 ans, 21 ans, en tant que membre de cette église. Et depuis, donc, j'ai fait la formation de l'Institut biblique à Genève. J'ai ensuite été pasteur pendant 8 ans à Chinon, dans le centre de la France, puis pasteur à Rennes. Pendant 10 ans, avant de changer cet été et de revenir en Lorraine, appelé par l'église de Villers à prendre la suite de François Longeron. Voilà. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce matin. L'église de Villers, je la considère toujours comme la petite sœur de l'église de Vendeuvre. Hein. C'est vrai qu'au départ, c'est David Brown qui a été fondateur de cette église, qui est ensuite parti à Villers pour fonder l'église de Villers. Et puis François, qui a été pasteur ici, a ensuite été pasteur à l'église de Villers. Et il y a toujours eu des relations particulières entre nos deux églises. Nous sommes environ une cinquantaine de membres, 80 personnes avec les enfants. Et la problématique que nous rencontrons, c'est de faire rentrer tout ce monde-là dans une salle où il n'y a que 63 chaises. Peut-être que vous savez que pendant plusieurs années, on a fait 2 cultes. En ce moment, on n'en fait qu'un. Mais parce qu'on est dans l'espérance que très bientôt, les travaux d'agrandissement vont se terminer. Donc on a décidé d'agrandir la salle. Nous, je ne sais pas si vous passez à avenue de boulevard Quatennens ou à avenue de Brabois, vous voyez, c'est à l'angle de ces deux rues à Villers. Les travaux avancent bien, le gros œuvre est terminé, on est en train de faire l'aménagement. Enfin, pour l'instant, on passe par des artisans et... L'aménagement intérieur de la nouvelle partie se déroule bien. Il y a une date qui est importante, c'est cette semaine. C'est un petit peu symbolique, on va faire l'ouverture. Ils vont faire l'ouverture entre l'ancien bâtiment et le nouveau bâtiment. Voilà, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, parce que l'ensemble des locaux sera ensuite utilisé une fois que tout sera fini. Donc ça, c'était un peu symbolique, mais c'est quelque chose d'important. Et puis un sujet de prière, c'est le financement de ces travaux. On est arrivé cet été à la fin du budget qu'on s'était fixé avant de démarrer les travaux. On avait voté 550 000 euros et cet été, on est arrivé à la fin de ce budget, sachant qu'il reste encore entre 150 et 200 000 euros de travaux à faire. Donc voilà, si vous pouvez prier pour nous, que le Seigneur aussi pourvoit au travers de dons pour la fin de nos travaux. Je n'ai pas amené de photos, mais vous pouvez passer devant. Ce n'est pas si loin. Certains personnages... Alors ça marche comme ça. Donc, voilà. Certains personnages ont été ce qu'on appelle des pionniers dans l'histoire, dans différents domaines, et ils sont devenus quelque part des héros parce qu'ils ont montré que des choses qui étaient impossibles, que tout le monde pensait impossibles, ont été finalement réalisées. J'ai pris 3 exemples qui sont peut-être parlants à ma génération, donc je m'excuse auprès des plus jeunes. Alors, on voit ici, super. Cet homme s'appelle Neil Armstrong. Voilà. Et qu'a-t-il fait, cet homme? On voit qu'il est en tenue de spationaute. Hein. C'est un spationaute qui est le premier à avoir posé le pied sur la Lune en 1969. Donc moi, j'étais déjà né, mais je ne m'en souviens pas. Un autre. Son avion s'appelle le Spirit of Saint Louis. Oui. Charles Lindbergh, aviateur. C'est le premier qui a traversé l'Atlantique. Il a relié New York à Paris en solitaire, sans escale, en 1927. Ouais. Là, j'étais pas né. Et puis, on va aller encore plus loin dans l'histoire. Un homme, celui-là, je ne pense pas que vous sachiez, vous ayez des indices par rapport à ce tableau. C'est Jacques Cartier, parce que on vient de Bretagne et Jacques Cartier était, il me semble, breton.
Les mamans.
Malouin, voilà, Malouin. C'est les Malouins, les Malouins, c'est les habitants de Saint-Malo. Et qu'a-t-il fait? C'était donc un navigateur, un explorateur, et on lui attribue la découverte du Canada en 1534. Voilà. Alors ça remonte encore. Mais tous ces hommes, trois exemples pour nous dire que tous ces hommes ont ouvert la voie à d'autres après eux. Des gens qui ont pu, après, oser aller plus loin. Et c'est vrai que depuis Neil Armstrong, je l'ai regardé sur Internet, il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Et qu'aujourd'hui, il y a des startups qui prévoient de développer dans les 30 ans à venir un tourisme lunaire. Et comme disait Amel Bent, viser la Lune, ça ne fait pas peur. Voilà. Aujourd'hui, la traversée de l'Atlantique en avion est effectuée, j'ai été effaré par le nombre que j'ai trouvé, 2500 vols par jour. Traversée de l'Atlantique entre l'Europe et l'Amérique du Nord. En toute éco-non-responsabilité. Depuis Jacques Cartier, d'autres continents ont été découverts et maintenant la cartographie de notre belle planète n'a plus de secret pour personne, même si elle permet encore des rendez-vous en terre inconnue. Alors, en tant que chrétien, je suis convaincu que nous sommes invités, nous aussi, à aller plus loin. Aller plus loin dans notre chemin de foi. Aller plus loin en étant encouragés à progresser dans notre marche avec Dieu. Et pour ce faire, Dieu nous donne aussi des hommes, des femmes qui peuvent être pour nous inspirants. Des gens qui ont vécu avant nous. Et je pense notamment à ceux qui ont été à la table du roi il y a 2000 ans, qui ont vécu avec Jésus, qui ont été quelque part ces pionniers dans le christianisme. L'apôtre Paul le disait, « Juste soyez mes imitateurs ». Il n'y a pas été à la table du roi, je pense qu'il le regrettait. Mais il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et je nous invite ce matin à voir ce que nous pouvons apprendre de la vie et du ministère d'un des tout premiers disciples de Jésus. Quel est-il, à votre avis? Je vais parler ce matin d'André, disciple de Jésus. Mais que savons-nous de cet homme? Je vous écoute. On connaît bien son frère, absolument. On connaît bien son frère. C'est Simon-Pierre, son frère. Et puis André, voilà. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur André? Il était pêcheur dans les deux sens du terme. À la fois il accrochait les poissons et puis il était, comme nous tous, pêcheur parce que nous pratiquions le péché. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Il le faisait avec son frère et avec son père et avec aussi d'autres personnes. Absolument. Disciple de Jean-Baptiste. Je le mentionnerai. Donc il était l'un des 12 que Jésus a appelés au début de son ministère. Il a vécu ces trois années en vivant avec le Seigneur, en mangeant avec le Seigneur, en écoutant le Seigneur, en marchant avec le Seigneur. Il fait partie de ces 12 qui ont été ensuite à la Pentecôte les piliers de l'Église chrétienne. Alors, je vous invite, on va lire plusieurs textes qui nous parlent d'André. Le premier, il se trouve dans Jean, chapitre 1. Sa première rencontre avec Jésus. On est là, effectivement, juste après le baptême de Jésus. Jésus est venu au Jourdain. Jean-Baptiste, qui était prophète de Dieu, qui annonçait la venue de Jésus, qui baptisait les gens dans le but de les inviter à changer leur cœur pour accueillir Jésus en tant que celui qui devait venir pour les sauver, eh bien, Jésus, à un moment donné, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste et il est écrit ici dans l'évangile de Jean au chapitre 1, le lendemain du baptême de Jésus, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il le vit passer Jésus et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Plus loin, verset 40, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Donc ce texte nous apprend deux choses. André et Simon sont frères. On sait qu'ils habitaient à Capernaum, une petite ville située sur le bord du lac de Galilée, qui travaillait avec leur père dans une entreprise de pêche familiale, qui était aussi tenue conjointement avec un autre homme qui s'appelait Zébédée et qui travaillait lui aussi avec ses deux fils, Jacques et Jean. J'ai trouvé une reproduction, un tableau qui date du début du XXe siècle, un bateau de pêcheurs sur le lac de Galilée. Et quand Jean-Baptiste commence son ministère au bord du Jourdain. A priori, André est venu l'écouter prêcher et, on comprend, ce que je comprends dans ce texte, c'est effectivement qu'il est devenu disciple de Jean-Baptiste puisqu'il était là le lendemain du baptême de Jésus. Il était encore là le lendemain du baptême de Jésus. On peut peut-être supposer qu'il a entendu ces paroles de Dieu venant du ciel quand Jésus s'est fait baptiser, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le lendemain, quand Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il dit « Mais c'est lui, l'agneau de Dieu. » Eh bien, André, qui suivait Jean-Baptiste, eh bien, il s'est mis à suivre Jésus. Et on voit que tout de suite, il a à cœur de partager ce qu'il a trouvé avec son frère Simon, en lui disant « Nous avons trouvé le Messie. » Et il est écrit qu'il le conduisit, Simon, vers Jésus. On sait donc que Simon et André ont rencontré personnellement Jésus quand, quelques temps plus tard, ils croisent à nouveau sa route le long du lac de Galilée. Et ça, on lit ça dans un autre évangile, dans l'évangile selon Marc. Où il est écrit « Comme il marchait, Jésus, le long du lac de Galilée, Jésus vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. » On reviendra sur ce désir de suivre Jésus, de répondre à l'appel de Jésus. Et puis, quelques chapitres plus loin, toujours dans l'évangile de Marc, on sait que André fait partie de ces 12 hommes, ce que je disais au début, choisis. Jésus établit 12 parmi tous ceux qui étaient avec lui, qui le suivaient, auxquels il donna le nom d'apôtre pour qu'ils soient avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Et voici le nom des 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre », André, on le retrouve là, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, Judas l'Iscariote et celui qui trahit Jésus. Donc on voit au travers de ces trois textes comment André est devenu non seulement un disciple, quelqu'un qui suit Jésus, mais aussi celui qui a été choisi avec 12 autres, avec 11 autres, pour former le groupe des 12 qui ont suivi Jésus pendant 3 ans. Alors, maintenant on va voir comment a-t-il vécu en tant que disciple de Jésus. Je propose la chose suivante, que la vie de disciple, on va le voir ensemble, que la vie de disciple d'André nous montre que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas besoin d'être sous le feu des projecteurs pour que Dieu nous utilise d'une façon réelle et puissante. Et je dis cela parce que même si André est très certainement donc l'un des premiers des 12 à avoir reconnu Jésus comme le Messie, et c'est quand même quelque chose, André n'a jamais eu la renommée de son frère Pierre. Durant ces années qu'il a passées aux côtés de Jésus, il n'a pas fait partie de son cercle intime. À l'inverse de Pierre, de Jacques et de Jean, il n'a pas été pris à part sur la montagne de la Transfiguration, il n'a pas été emmené dans la maison de Jaïrus quand Jésus a guéri sa fille, il n'a pas été présent quand Jésus a prié dans le jardin à Gethsémané avant son arrestation. Plus tard, André n'a jamais prêché comme Pierre, par exemple. Il n'a jamais non plus écrit un évangile comme Matthieu ou Jean. Il n'a pas été reconnu par l'Église primitive comme Jacques l'a été. Quand on regarde le nombre de fois où Pierre est nommé dans les évangiles, mon logiciel a compté 96 fois, seul Jésus est mentionné plus souvent. Et le nom d'André n'est retrouvé que 14 fois, et le plus souvent, il est simplement cité comme étant frère de Simon, frère de Pierre. Il y a de quoi faire une crise d'identité. Dans les évangiles, on voit Pierre tout le temps au cœur de l'action. Un grand nombre de choses que Pierre a dites ou faites sont rapportées dans les évangiles, alors que ce qu'André a dit ou fait, finalement, l'Écriture n'en retrace que 3. Et on peut imaginer que c'est certainement difficile de vivre tout le temps à l'ombre de son frère. Et si ça nous arrivait, je ne sais pas comment on le vivrait. André n'a jamais été à la lumière. Et il a pourtant pris part d'une manière active, avec ce qu'il était, à la vie de la communauté des 12. Aux côtés de Jésus, il avait sa place. Il était à sa place. Et Dieu a utilisé André d'une manière puissante, même s'il n'a jamais atteint la popularité de son frère. Car André n'a pas seulement amené son frère à Jésus, comme on l'a lu dans Jean 1, mais là on le voit aussi dans un autre texte de Jean, qu'il a amené à Jésus des étrangers qui voulaient le voir. Il y avait... Jean 12, verset 20, il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui demandèrent : « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Et Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. On aimerait bien qu'il y ait plus de personnes qui nous disent ça. Hein. Nous voudrions voir Jésus. Eh bien, là, on voit que dans les deux premiers textes de Jean 1, où il emmène son frère, et là, Jean 12, il emmène ses hommes étrangers vers Jésus. Pour moi, ça montre qu'André joue ce rôle d'intermédiaire efficace pour amener quelqu'un à une rencontre personnelle avec Jésus. Et il y a un troisième texte. On revient dans Jean, un petit peu plus tôt, dans Jean chapitre 6, qui nous montre aussi quel rôle André a joué le jour de la première multiplication des pains. Jésus leva les yeux, vit une grande foule venir à lui. Il dit à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe répondit : « Les pains qu'on pourrait acheter pour 200 pièces d'argent, qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. » Et là, un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Et Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et Jésus multiplia ces 5 pains et ces 2 poissons pour nourrir l'ensemble de la foule. On voit encore ici que André sert d'intermédiaire entre ce garçon avec son petit-déj et Jésus. Ça paraît tout simple. Mais c'était fondamental de pouvoir le faire. C'est vrai que le Seigneur, il aurait pu réaliser ce miracle de nourrir près de 15 000 personnes autrement. Mais il avait décidé que André aurait un rôle à jouer. Ce miracle qui a permis à des milliers, des millions de personnes de comprendre que Jésus est le pain de vie, qu'il est le seul à pouvoir assouvir à notre faim intérieure, notre soif de justice et de vérité. Il est intéressant aussi de noter que la tradition dit que c'est André qui aurait poussé Jean à écrire son évangile. C'est quand même aussi très intéressant. Alors donc, on voit André qui apparaît comme étant quelqu'un de discret, au service, discret, mais ô combien utile. Et personnellement, je suis émerveillé de voir comment Dieu a utilisé André dans ce ministère discret, loin de la lumière des spots, mais d'une grande efficacité. Cette place relative d'André et de Pierre rentre aussi plus largement dans la question que se posaient les disciples aussi, à plusieurs reprises, de savoir qui était parmi eux le plus grand, le premier. On le voit à deux reprises dans Luc. Une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Luc 9, 46, Luc 22, 24, un autre moment. Il se leva aussi parmi eux, les apôtres, une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Et Jésus leur a répondu calmement, mais clairement. Il assit, Marc 9, 35, il s'assit, il appela les douze et leur dit, si quelqu'un désirait être le premier, qu'il se fasse dernier de tous, le serviteur de tous. Ça, c'est la logique du royaume. Ce n'est pas la logique humaine. Et André, il a été clairement au service de Jésus. Alors, en ce qui nous concerne, comment, si je vous dis, comment désires-tu servir Dieu, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Partir en mission, devenir pasteur, responsable pastoral dans l'église, moniteur d'école du dimanche, responsable du groupe de jeunes, chef scout. Et ces ministères sont super importants. Et nous constatons hélas que bien souvent que les ouvriers sont peu nombreux dans la moisson et tu nous le rappelais ce matin. Mais servir Dieu, cela ne commence-t-il pas par désirer mettre en pratique dans sa vie les commandements du Seigneur? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une vie où Dieu est au centre, une vie qui nous pousse à aller vers les autres pour les servir, leur parler de l'amour de Dieu, une vie qui s'attend à Dieu dans chaque domaine, une vie qui a un désir ardent d'amener des personnes à Christ, comme André l'a fait. Servir Dieu discrètement ne veut pas dire servir Dieu moins bien. Et André est l'exemple même que Dieu a besoin de personnes qui travaillent en coulisses, qui le servent même si cela ne rapporte pas de popularité et reconnaissance publique. Et nous avons peut-être un petit peu toujours tendance à vouloir choisir des choses visibles aux yeux des autres plutôt que des tâches qui ne sont pas visibles. On a demandé une fois à un célèbre chef d'orchestre quel était, à son avis, l'instrument le plus difficile à jouer dans un orchestre. Et il a répondu sans hésiter, moi je n'aurais pas répondu ça, mais il a dit le second violon. Parce qu'il a dit, moi, du premier violon, je peux en avoir, hein, autant que vous voulez, mais pour trouver un second violon compétent et virtuose qui joue avec enthousiasme, c'est un réel problème, il a dit. Ça fait réfléchir. Parce que c'est vrai que d'une composition musicale, si le second violon n'est pas à la hauteur, eh bien, ça la perd de l'harmonie et l'œuvre est diminuée dans sa restitution. Et je crois que c'est aussi vrai dans l'Église. Ceux qui sont en arrière-plan ont autant de valeur que ceux qui sont au premier plan. Parce qu'on a tous un rôle à jouer. Chacun avec ce que l'on est, chacun avec les dons que Dieu nous accorde par son esprit, chacun selon l'appel qu'il nous donne. Chacun a son importance. C'est une invitation pour chacun de nous donc à être les hommes et les femmes que Dieu veut que nous soyons. En rappelant que nous n'avons pas à rechercher l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. L'apôtre Paul disait, mais servez Christ, le Seigneur, avec joie, avec joie. Faites tout pour la gloire de Dieu, disait aussi l'apôtre Paul. Alors, voilà notre pionnier, qui nous invite aussi aujourd'hui à aller plus loin. Dieu nous a donné André pour nous emmener à réfléchir à nous-mêmes. Peut-être quel pas, au singulier ou au pluriel, Dieu me demande de faire aujourd'hui pour aller plus loin. Et je voudrais partager trois réflexions en ce sens. Jésus a dit à André et à Simon, il leur a dit, « Suivez-moi. » Jésus, aujourd'hui, appelle encore chacun de nous en nous disant, toi, suis-moi. André avait trouvé en Jésus le Messie. Il était prêt à devenir son disciple. Il était même prêt à tout quitter, on l'a vu, pour le suivre. Parce que suivre Jésus est la décision la plus importante de toute une vie. Alors est-ce que toi aussi, tu es devenu comme André, un disciple de Jésus, prêt à le suivre, quel qu'en soit le prix ? Il n'est jamais trop tard, il n'est pas trop tard pour prendre la décision de le suivre. Cette décision qui consiste à reconnaître son péché, à demander pardon à Dieu pour tout ce qui dans notre attitude l'a offensé et de le laisser nous transformer dans une vie nouvelle et de le laisser nous conduire dans la vie qu'il désire pour nous. Être disciple de Jésus. André a souvent été appelé frère de Simon-Pierre. Il a été dans l'ombre, mais il a été pleinement à sa place aux côtés du Seigneur Jésus, avec ce qu'il était. Et toi, durant cette nouvelle année qui commence, quelle sera ta place au service du Seigneur dans sa mission pour le monde ? Tellement important d'être à sa place, celle que le Maître attend de nous. Et puis la troisième réflexion que je voulais partager avec vous ce matin, c'est vraiment la manière dont André a mis des personnes en relation avec Jésus. Quand il a dit « Nous avons trouvé le Messie », il l'a dit à son frère. Il a répondu à des hommes qui ont dit « Nous voulons voir Jésus », il les a amenés vers Jésus et quand il a su qu'il y avait un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons, il l'a mis en relation avec le Maître. Trois textes qui nous parlent chacun d'eux d'une manière différente, mais dans ces trois textes, à chaque fois, André amène les personnes vers Jésus. C'était un facilitateur. C'était probablement son don. C'était sa part. Il était discret mais efficace. Et ça nous rappelle que nous aussi, nous sommes invités à mettre des personnes en contact avec Jésus. Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à nous rendre disponibles aux autres pour leur parler de notre foi, de ce Jésus qui est notre Sauveur ? Est-ce que nous pourrions faire cette prière ce matin et pour cette année, Seigneur, permets-moi d'amener quelqu'un à toi ? Ce texte, ces textes, André nous invite à Le Seigneur nous invite au travers d'André à être des disciples qui sont humblement disponibles et utiles dans la main de Dieu. Et c'est ma prière pour chacun de nous ce matin et pour cette année qui vient. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, tu veux nous apprendre des choses au travers de ce frère André, qui a vécu avec toi, Jésus, pendant ces 3 années, mais qui a été si discret, mais on le voit dans ces 3 témoignages que l'Évangile nous donne, la manière dont il a pu être disponible et amener des personnes à te connaître. Seigneur, je veux te prier que ce matin, tu touches nos cœurs et que tu nous dises aussi, Seigneur, la manière dont tu voudrais que nous menions notre vie, que nous nous rendions disponibles aussi pour vivre en tant que disciples. Déjà, le devenir, si on n'a pas fait le pas, et puis de savoir que voilà, tu nous invites à servir, que tu nous invites à témoigner, à amener les gens à toi, Seigneur. On est conscient que sans ton aide, Seigneur, c'est compliqué et c'est impossible même, mais que tu déverses en nous ton esprit qui nous rend capables, Seigneur. Tu désires nous transformer, tu désires nous équiper, tu désires nous conduire, nous assurer de ta présence comme on a pu entendre ce matin dans les témoignages que tu es ce Dieu fidèle et bon, souverain et grand. Qu'on puisse, Seigneur, encore pleinement nous confier en toi, nous attendre à toi et être disponible, Seigneur, pour être la porteur de lumière, porteur de cet amour qui est le tien, de cette grâce que tu as manifestée en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la communauté de l'église de Vendeuve, Seigneur, pour toutes nos églises perspectives de Lorraine, pour les églises de Messie, tous les chrétiens du monde entier qui sont que tu as placé comme flambeau dans ce monde pour briller. Seigneur, merci de nous encourager, Seigneur, à continuer à marcher avec toi en te faisant confiance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.